Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo, je travaille dans le développement de projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Régis Lagues, qui occupe depuis 10 ans le poste de directeur de l'Académie du Tout-Puissant Mazembe, en République démocratique du Congo. Régis nous parle de l'Afrique, de son Afrique, et du foot africain qu'il connaît si bien. Il nous plonge dans son aventure avec Jean-Marc Guillou, lorsqu'il était formateur dans sa fameuse académie en Côte d'Ivoire, et nous explique comment cette aventure les a emmenés en D1 belge, à Beveren. Son travail en tant que consultant pour l'Académie de Clermont Foot lui permet de nous partager sa vision du rôle du formateur, que ce soit en France ou en Afrique. Régis a un parcours fascinant. Joueur au SCO d'Angers durant la fameuse époque du club début des années 70, lorsque l'équipe jouait un football total et remplissait les stades dans toute la France. Cette expérience ancrée en lui l'a amené à faire la rencontre de Jean-Marc Guillou, joueur emblématique de cette équipe. Lorsque des années plus tard, en 96, leurs routes se sont recroisées, Jean-Marc avait déjà créé son académie à Abidjan et avait besoin d'un entraîneur formateur sur place. En quelques années, l'académie devient LA référence en Afrique. Le pari est réussi. Les meilleurs joueurs du pays, voire du continent africain, y sont formés. Yaya Touré, Salomon Kalou, Gervinho pour ne citer que. Les chiffres sont édifiants. En 3 générations seulement, 83% des jeunes recrutés à l'âge de 12 ans par l'académie sont devenus pros. Durant notre échange, Régis n'hésite pas à nous livrer le secret de cette incroyable réussite. Bonne écoute. Bonjour Régis Lagues, comment vas-tu?
Eh bien bonjour Hugo, ça va bien.
Ouais. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, ici à Clermont, ou en tout cas c'est un de tes chez toi.
Un des chez moi.
Parce que oui, on va voir que tu vis entre Clermont et Lubumbashi, en République démocratique du Congo.
Voilà.
On va parler de ce voyage qui a commencé en 96,
oui.
Quasiment à 50 ans.
Quasiment.
Et là, c'est vrai que, je ne sais pas, tu le savais à ce moment-là que tu partais et que...
À la limite, pour l'anecdote, le drôle, c'est que je rêvais de Finlande, de Norvège, de pays froids. J'avais même contacté Saint-Pierre et Miquelon et j'avais reçu un courrier. C'était plus qu'un fantasme, c'était une grande, grande, grande envie. Et j'étais presque parti là-bas. Avant que Jean-Marc m'appelle, j'ai retrouvé d'ailleurs les enveloppes et les courriers, c'est marrant. Et je me retrouve, évidemment, en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, bah, j'y suis resté. Okay.
Donc, sans trop te poser de questions non plus. Tu n'as pas eu des craintes ou dans quelle optique tu es arrivé à Abidjan?
Non, je n'ai pas eu peur. La peur n'évite pas le danger. Donc de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Je n'avais pas une position en France. Je n'ai pas laissé non plus. Je n'étais pas PDG d'une grande entreprise, rien du tout. Je suis parti avec ma famille. Et donc, je suis parti là-bas sans appréhension. Et vraiment, l'ambiance avec les joueurs était tellement exceptionnelle. Et le niveau de football et de plaisir mélangé, c'était extraordinaire. Quoi. Donc, il n'y avait pas d'état d'âme. Quoi.
Parce que c'est vrai, on va rentrer un peu dans ce détail-là. Mais tu t'es retrouvé avec Jean-Marc Guillou dans cette académie qui, on va un peu l'expliquer comment, mais finalement, qui a formé les meilleurs joueurs de l'histoire de Côte d'Ivoire quasiment, voire les meilleurs joueurs du continent africain. Mais c'est vrai que finalement, vous avez, Jean-Marc à la base et avec toi et avec d'autres personnes, créé une académie hors du commun.
Jean-Marc a créé l'académie. Hein. Moi, je ne suis pour rien dans la création du tout et surtout dans le concept pédagogique hein, de cette académie, qui est d'une simplicité extrême. Il n'y a pas plus simple, mais comme toutes les choses simples, il faut les réaliser, il faut les mener à bien. Et on croit toujours qu'il faut faire des choses compliquées pour réussir quelque chose et mener des choses simples dans la continuité, c'est-à-dire refaire tous les jours la même chose, recommencer, avancer millimètre par millimètre. C'est bien plus compliqué que de faire des théories, d'en changer, d'en faire des nouvelles et ainsi de suite, d'avoir l'opiniâtreté. Et ça, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Marc, c'est bien l'opiniâtreté et la volonté exacerbée d'arriver à ce à quoi il veut. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Quoi.
Parce que quand tu te lances dans une académie où la première génération de joueurs qu'il a recruté, oui. C'était des enfants de 12 ans.
Oui, 12-13 ans, oui, à peu près, puisque c'était en 94 et les joueurs étaient globalement les plus vieux de 80, donc 14 ans. Et beaucoup, 81, 82, 83. C'était entre 80 et 83, donc ils avaient entre 11 et 14 ans.
Et lui, il disait quoi? Il disait, si on fait cette méthodologie, on va former des joueurs internationaux, ou il avait ça comme objectif, il le disait?
Lui, il disait rien, et quand on arrivait à parler dans les folles soirées, parce que pour parler, on a parlé, hein, avec Jean-Marc, tu parles de football, alors quand il y avait, pour peu qu'il y ait Jean-Marc, Arsène Wenger, Roland Chebel, Titou Larouille, le jour, la nuit, le lendemain, et ainsi de suite, hein, oui, parler que de football et tout ce qu'il y a autour, quoi. Jean-Marc, c'était, de toute façon, tu étais obligé d'être champion du monde, quoi. Et je crois que c'était pas utopique. C'était pas utopique dans l'absolu, si, après... Évidemment, il y a des aléas de parcours qui détournent les, y compris les grands fleuves et les grandes, et qui font que bah, on n'arrive pas forcément au but parce qu'il n'y a pas l'alignement des planètes. Jean-Marc a des qualités énormes et il a un peu aussi, c'est normal, le défaut de ses qualités. C'est l'inverse de moi, j'ai beaucoup de défauts, et puis avec les quelques qualités dans mes défauts qui ont fait qu'il y a eu des petits problèmes qui se sont amplifiés et qui ont fait que, hélas, cette génération aurait pu. Il y a quand même eu 83% de réussite sur les trois promotions, puisque ça s'est arrêté à trois. C'était aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de championnat du monde et il n'y a pas eu de tout ça.
83% de joueurs formés dans l'académie sont devenus professionnels.
Oui. Et sont devenus professionnels, pas en National 2 et tout, quand on parle de professionnels, je dirais au plus bas en championnat de première division belge, au plus bas. Et alors, après, Paris Saint-Germain, l'OM, Barça, Tottenham, oui, Manchester City, Arsenal, et ainsi de suite. Hein.
Parce que si on cite quelques noms pour ceux qui ne connaissent pas bien toute cette académie, c'est là où a été formé, comme tu disais tout à l'heure, mais Gervinho, ouais, Salomon Kalou.
Voilà, c'est la troisième promotion, c'était les dernières sorties. Yaya Touré, Kolo Touré, Eboué, Yapi Yapo, Maestro, voilà. Bakikone, Haruna Dindan, j'en oublie beaucoup, hein, Chico Tiene, c'est vraiment exceptionnel. Quoi.
Et après aussi, c'est que l'Académie a ouvert ses portes dans d'autres pays et ça a marché partout où ils ont mis en place cette méthodologie.
La méthode, elle marche partout, à condition de laisser du temps, à condition d'être extrêmement rigoureux et très, à la fois très dur avec les joueurs. Il faut les aimer, comme disait Jean-Marc tout le temps, comme dit toujours Jean-Marc, je pense. Il faut les aimer, absolument, et demander beaucoup. Et puis après, bon, la méthode, c'est une sélection drastique, hein, évidemment, puisque le jeu consiste à prendre des joueurs et les avoir le plus longtemps possible pour ne pas perdre un joueur que tu gardes 3 ans, tu mets 3 ou 4 ans à t'apercevoir que finalement, ce n'est pas le bon. Ça ne l'aide pas beaucoup, lui, et ça n'aide pas ceux que tu n'as pas pris en lieu et place. Quoi. Donc... Mais il y a quand même l'avantage de la simplicité, à la fois dans le recrutement, dans la détection, le recrutement. Deux plots de chaque côté, 4 joueurs contre 4, allez-y jouer. Plus simple, pas pratique, hein, il n'y a pas besoin de tests dans tous les genres et tout ça. Et vu les résultats, c'est quand même pas si mal. Et je suis là pour affirmer que ça marche aussi ailleurs quand c'est fait aussi consciencieusement et avec de la continuité. Ce qui a manqué à Jean-Marc notamment, c'était le temps. Alors, il y a eu le problème aussi, c'est que ces joueurs ont été vite bloqués par le niveau ivoirien, par le niveau local. Ce qui est aussi, et 20 ans après, ça n'a pas vraiment changé. On a le même problème, on retrouve les mêmes problèmes à la sortie de l'académie. Quoi qu'en pense beaucoup de gens bien intentionnés, oui, c'est vrai que ce serait idéal qu'ils puissent trouver leur place sur le continent pour des tas de raisons sportives, sociales, politiques, sociétales. Tout, évidemment, c'est l'idéal, mais il faut donner les conditions. C'est bien gentil, tu te retrouves. Nous, on est à Mazembe. Mazembe, si les joueurs continuent à jouer là, ben, ils sont tout seuls parce que le championnat ne va pas être extrêmement intéressant. Donc, très vite. Ils vont plus progresser s'il n'y a pas plus. Tu progresses dans la vie en jouant contre plus forts que toi ou en jouant ou en affrontant les plus forts que toi, quel que soit le milieu, le football ou autre chose. Après, tu avances plus, tu régresses. Et pour l'instant, il n'y a pas un championnat, hormis l'Afrique du Sud et puis les pays du Maghreb, en Afrique noire, subtropicale, subsaharienne, pardon, il y a des équipes, une fois une équipe, donc qui joue la Champions League ou la Coupe Africa, mais sorti de là, il n'y a pas aucun des championnats locaux qui n'est suffisamment élevé pour faire progresser les joueurs. À la fois footballistiquement, sportivement, et également socialement, quoi, qui leur apporte suffisamment pour construire sa vie.
En Côte d'Ivoire, mais même en ce moment en RDC, comment tu fais pour tous ces jeunes qui viennent dans l'académie et qui rêvent de jouer en Europe ? Toi, tu sais très bien qu'il y en a très peu, ou voire pas, mais très peu qui vont réussir à atteindre ce rêve.
C'est moralement et mentalement très compliqué, honnêtement. C'est... Alors, on peut toujours dire, bon, je viens là pour 3 ans, je fais 3 ans, je fais le mieux possible et puis après, je rentre chez moi. Bon, ça n'a jamais été ma ligne de vie. Hein, ou alors, je fais autre chose, quoi, une fois que la passade, que j'avais fini de faire ce que j'avais envie de faire. Mais avec ça, je l'ai fait pour vendre des frites ou des raquettes de tennis, mais pas avec des êtres humains et pas avec des jeunes, hein, d'où qu'ils soient. Donc c'est compliqué parce que c'est tout à fait vrai. Tu commences en te disant il y aura plus d'échecs que de réussites, c'est quasiment certain. Hélas, non pas par même si tous les joueurs sont capables, il n'y a pas du débouché pour tout le monde. C'est pas possible dans l'état actuel des choses. C'est pas possible. Aujourd'hui, je dis, je confirme, je maintiens. Bon, ça n'engage que moi. Le talent footballistique, il est en Afrique. En Amérique du Sud, vraisemblablement aussi. Je connais moins, bien que je connais les joueurs qui arrivent de là-bas. Mais en Afrique, il y a du talent partout, 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 partout. Mais aujourd'hui, combien de joueurs, hormis chez Jean-Marc, avec Vincent Dufour, qui maintenant ont une aura et sont vraiment ont fait les choses avec de la difficulté à beaucoup de moments, mais maintenant commencent à avoir une telle réputation et tout que les joueurs peuvent sortir, ouais. espérer sortir.
Et parce que aussi, à tous des années d'expérience et de travail, il faut qu'ils ont les bons contacts aussi en Europe.
Le tout, c'est d'amorcer la pompe, hein, comme dans beaucoup de choses. Après, c'est vraiment eux, ils ont les possibilités de faire sortir les joueurs, même si c'est encore difficile maintenant. Mais en dehors de ça, pour commencer, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, avoir des visas, envoyer des joueurs à l'essai, c'est pratiquement impossible. Les faire sortir des clubs, des pays, c'est très, très compliqué. Parce qu'il faut trouver les bons accords. Il n'est pas question de piller les clubs ou les pays. Bon, moi, je souhaitais, et c'était... l'objet de mon engagement là-bas, en accord avec le président et son épouse, faire une équipe pour qu'elle joue pour Mazembe, pas sortir des joueurs pour faire du commerce, mais faire une équipe pour jouer et aller le plus loin possible. Bon, après, les circonstances font que c'est pas simple. Il y a toujours quelque chose qui vient... Là, notre président a été en exil pendant 3 années. Ça a été très, très compliqué, mais pour lui, bien évidemment. Mais pour nous aussi, là-bas sur place, parce que pendant qu'il n'était pas là, on a vraiment fait de la survie à l'académie, et nous et les joueurs. Hein, et on a tenté de survivre comme on pouvait. Et ça a créé des dégâts considérables, difficiles à rattraper, parce que dans le foot comme ailleurs, mais plus qu'ailleurs, je pense, parce que peut-être que tu peux t'arrêter de jouer dans un orchestre, mais tu continues à jouer du piano tout seul, et le jour où tu retrouves l'orchestre, ça peut aller. Au foot, quand tu perds deux ans sans jouer, pratiquement, sans jouer à ton niveau et au-dessus, c'est très compliqué de redémarrer, de reprendre après. Comme tu reprends pas très bien, on dit « Ah, bah voilà, c'est parce qu'il était pas bon. » Il était bon il y a 2 ans, mais si vous laissez 2 ans un joueur sans jouer, c'est compliqué pour retrouver le niveau et le dépasser.
Justement, j'en parlais avec Ludovic Debruc, qui est à la Fédération des TN adjoints, qui s'occupe des projets de la FFF à l'international. Il me disait que le savoir-faire français, il est surtout dans cette transmission d'informations continue depuis 40 ans, ou depuis 50 ans, depuis Georges Boulogne. Et que depuis, il n'y a jamais eu de rupture dans cette transmission d'informations. Dans les fédérations africaine, il se peut, et même peut-être dans les clubs, qu'il y ait des ruptures. Et ces ruptures, c'est très difficile à combler, en fait.
C'est vrai. C'est vrai parce que très souvent, les clubs sont les émanations d'une personne qui, pour des raisons X, soit homme d'affaires, soit homme politique, ont des bons moments et des moins bons moments. Donc, le club vive un peu les hauts et les bas, les mêmes. Et donc, ça n'aide pas à la continuité. Ça, c'est clair. Ça n'aide pas à la continuité. À côté de ça, il y a un vivier énorme. Mais on fait que des demi-projets, quoi. Parce qu'on arrête, il faut recommencer. On recommence, c'est plus forcément les mêmes joueurs. On recommence. Bon, si 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans après, ah, il y a encore un problème, qu'il soit politique, économique, voilà, revers de fortune ou tout ce qu'on veut, ça complique effectivement sérieusement les choses. Surtout nous, dans le mode d'académie que fait Jean-Marc et que j'ai repris évidemment intégralement, tout est pris en charge. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sélectionne un joueur, comme avec Jean-Marc, on envoie chaque année entre 4000 et 6000 uniquement sur la ville de Lubumbashi pour en garder 14. Donc si y a rupture, au bout d'un moment, il faut recommencer et c'est compliqué. Et ces 14-là, ils sont pris en charge totalement. Donc scolairement parlant, nourriture, logement, habillé, ainsi de suite, quoi. Donc c'est compliqué de redémarrer à chaque fois.
Bien sûr, c'est ça.
C'est un des gros problèmes pour faire émerger ces talents.
Mais il y a un point là dans ton expérience en ce moment en RDC, et il y a une continuité, c'est toi. Ça fait plus de 10 ans que tu es dans cette académie-là, et c'est unique, non, une personne qui soit restée aussi longtemps.
Bah, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, quoi. Unique, je ne peux pas l'affirmer, ouais. j'en sais rien, mais il y a sûrement 12 ans à RDC, dont 10 ans dans le même club à la formation. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup.
Et comment tu analyses ça, cette volonté, cette énergie que tu as pu mettre et que tu mets dans cette académie?
Ah, je pense qu'il faut, quand on commence quelque chose, qu'on aime les gens, qu'on aime les joueurs qui sont là, je ne sais pas comment on fait pour arrêter d'aimer les gens. Non, moi. Donc il y a peut-être des moyens, j'ai dû rater le cours, je ne sais pas. Donc je ne peux pas me détacher, je ne peux pas dire... souvent on sort de l'académie, les joueurs sortent de l'académie, ils vont dans le club... suivant, que ce soit Don Bosco, Mazembe, ainsi de suite. Et on me dit, ah, mais coach, maintenant, c'est plus vos joueurs et tout. Je dis, comment, c'est plus vos joueurs? Je dis, vos enfants, quand ils quittent de chez vous pour aller travailler, c'est plus vos enfants. Alors, c'est pas les enfants au sens biologique du terme. Mais je vois pas comment on peut vivre 10 ans avec des gens, avec tout ce que ça peut recouvrir en Afrique, hein, et puis comme ça. C'est-à-dire que les deuils, les maladies, les blessures, les trucs. Tous les problèmes de la vie, tous les aléas de la vie, on les prend à 100%, hein, parce que qui est là pour aider, pour renseigner, pour accourir dès qu'il y a un problème important, et il y en a. Hein, c'est nous, et c'est logique, ou autrement, on n'est pas là-bas, ou autrement, on ne peut pas être fonctionnaire dans ce genre de... Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça aujourd'hui, il faut se méfier.
Non, ça va, celui-là, ça passe encore, ça. Oui,
c'est une expression.
Ouais, ça passe
et
encore.
Ça n'encadre pas tout le monde.
voilà. C'est important aujourd'hui de bien préciser. Tu vois, comme je te disais avant, je ne suis pas journaliste, donc on est en train de tout mélanger, mais c'est l'idée de cette discussion. Donc on va continuer à faire des allers-retours entre la Côte d'Ivoire, la RDC. Mais aujourd'hui, tu es aussi en parallèle de ton rôle de directeur de l'académie du TP Mazembe à Lubumbashi. Tu travailles aussi à Clermont dans la préformation. Tu les aides, tu fais du conseil.
Conseil
pour l'équipe qui vient de... Bah, ce club qui vient de monter en première division. Donc félicitations, même si tes joueurs...
J'y suis absolument pour rien, mais félicitations surtout à Ahmed Schaeffer, Jérôme Champagne et Yannick Flabien et bien évidemment Pascal Gatien.
Ouais.
C'est quand même une des raisons pour lesquelles je suis là, en dehors de mon amitié avec Jérôme Champagne, qui m'a présenté à l'équipe dirigeante. Une des raisons pour lesquelles j'ai accepté la mission, c'était la présence de Pascal Gatien, principalement, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu avant, mais j'avais suivi sa carrière de footballeur et sa carrière d'entraîneur, et il faisait partie des gens que je pensais, que je disais, tiens, il pourrait y avoir quelque chose là de sympa. Je sentais bien le football et le personnage à travers le football. Et je pense que je ne me suis pas trompé.
Ouais, et on voit qu'il y a du gros travail depuis quelques années et qui porte ses fruits. Mais ma question, c'est pour continuer à parler de l'international, c'est aujourd'hui, t'as un peu, donc tu vis quasiment un mois sur deux en France et l'autre mois en RDC.
Oui.
Et tu travailles avec le même groupe d'âge, plus ou moins, de jeunes. Est-ce que tu peux réussir à comparer un peu le rôle d'un formateur ici en France avec le rôle d'un formateur que tu es en Afrique, en RDC, et voir ce qu'un côté peut t'apporter dans l'autre et vice-versa?
Alors, voir ce qu'un côté peut apporter dans l'autre, peut-être. Même rôle, alors pas du tout, quoi. C'est aux antipodes. Il y a un endroit où tu es 20 heures sur 24, et encore, si pas 24 sur 24. En Afrique, je débranche jamais le téléphone. Il peut y avoir quelque chose peut se passer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand je suis ici pendant un mois, quand même, à minuit, je coupe jusqu'à 6 heures le lendemain matin, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là. C'est très, très différent. C'est vraiment très, très différent. Il faudrait vraiment une interpénétration des personnes. D'ailleurs, on l'a fait avec Clermont, hein, à l'instigation de Jérôme Champagne. Il y a trois éducateurs qui sont venus à Lubumbashi pendant 10 jours, qui sont venus voir comment ça se passait, le niveau des joueurs et les entraînements. Je pense qu'ils en sont revenus transformés.
Qu'est-ce que tu crois que ça a pu leur apporter ?
Beaucoup de frustration quand ils reviennent ici.
Ah ouais.
Je pense, hein, ouais. Parce que bah évidemment ils n'ont qu'un rêve, c'est de pouvoir faire la même chose. C'est de pouvoir faire la même chose et ils sont pas dans les mêmes conditions. Ils ont pas, il y a pas les mêmes. D'abord ils ont ici pratiquement tous ils ont tous un travail à côté.
Ouais.
Tu as les joueurs, quand tout va bien, tu les as trois fois une heure et demie par semaine, alors que nous on a trois fois une heure et demie par jour sur le terrain. Donc c'est complètement, en plus tu prends les mêmes joueurs, entre 12 et 18 ans. Tu fais l'entraînement, tu ne t'occupes pas de savoir s'ils ont 12 ans ou s'ils ont 18 ans. Hein. Bon, tu t'en occupes parce que tu le vois, faut faire des choses qui... Mais ça se fait naturellement, quoi. Donc, on n'est pas sectériorisé comme ici, telle heure, attention, toc, c'est l'heure, il faut laisser mon demi-terrain pour que les U8 puissent remplacer les U7 et ainsi de suite, quoi. C'est beaucoup plus... Et puis, une qualité, un talent... vraiment,
ouais.
Énorme, quoi, énorme, énorme. Alors ici, j'ai quand même la bonne surprise, et ça me rassure sur ces derniers mois, de voir des joueurs qui ont du talent, de trouver des joueurs qui ont du talent. Après, il est plus difficile à faire prospérer ici, quoi. Parce que ce qui fait beaucoup progresser dans le football et dans le reste, c'est que les meilleurs, entre eux, se conforment, s'affrontent et se confortent quotidiennement, quoi. C'est évidemment, quand si tu fais le 100 mètres, ou tu as 10 mecs qui font le 100 mètres dans le même team en 10 secondes, c'est pas pareil que quand t'en as un qui le fait en 10 et 6 qui le font en 17 secondes, quoi. Pour progresser, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et ce principe, il est vrai dans le sport, il est vrai dans la musique, il est vrai dans toute activité. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudrait beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup de changements. Les changements ne sont pas compliqués. C'est les modes de fonctionnement qui sont difficiles à changer. On a du mal en France à changer le mode de fonctionnement. On voit bien sur les deux années qui viennent de se passer avec la Covid, dès qu'on change un petit peu quelque chose dans l'alignement des jours, ça c'est la révolution.
Et tu as aussi cette histoire-là que ici on va toujours te dire, ouais, non, mais nous on est champions du monde, ou non, nous on est meilleurs, on a les meilleurs joueurs du monde, donc qu'est-ce que tu viens de nous apprendre avec ta méthodologie?
Absolument, absolument. On est... Oui, oui, tout à fait, ça c'est aussi assez franco-français. Bon, on est champion du monde quand même avec des joueurs dont seulement un ou deux jouent en France. Et puis, c'est un certain nombre d'élites, quoi. Très peu, hein. Allez, tout compris 2000 joueurs professionnels en France, dont pas mal viennent hors de France. J'aime beaucoup la formation espagnole, la formation portugaise, qui sont en avance, plus proches. en avance, je ne sais pas, sont plus proches de, la, de, ce que, de notre sensibilité, avec beaucoup plus de place laissée au talent. Je n'ai pas la vérité, hein, moi je ne pense pas qu'on puisse remplacer le talent par quoi que ce soit d'autre. Alors ça ne suffit pas, par contre, je ne suis pas idiot non plus. Hein, le talent, si tu le laisses, si tu es feignant, si tu ne veux pas te fatiguer, si tout et tout, bah, le talent il s'étiole et puis il n'est pas utilisé. Mais tu ne peux pas le remplacer par, par quelque qualité que ce soit. Ça arrive hein, de temps en temps. Si tu mets 10 joueurs, 10 Messi, le 11e, il peut être un peu moins bon et même largement moins bon. Et passer, d'abord, il va beaucoup progresser. Et en plus, ça va aller. Mais fais l'inverse. Il n'y a plus de Messi. Hein, si tu... Très vite. Hein. Ce n'est pas facile comme gymnastique.
Ouais, mais ça va être intéressant pour toi, après avoir été tellement longtemps qu'en Afrique.
Oui, c'est intéressant.
De tout. Revenir ici.
Je suis pas parti de ce principe-là, mais je le tiens maintenant depuis pas mal de temps. Tout est intéressant. Si c'est pas intéressant, faut pas que je fasse. J'ai pas de temps à perdre.
Ah, ça veut dire que cet échange, il est intéressant avec moi. Si tu l'acceptes, c'est que tu trouves ça
si
intéressant.
Si je suis encore là maintenant, oui. D'abord, si je l'ai accepté et après avoir écouté beaucoup d'autres podcasts. Et par les gens par qui ça m'était présenté, déjà de base, c'était déjà intéressant. Et si je suis toujours là à parler, peut-être à trop parler et pas forcément de façon très construite, oui, c'est que ça m'intéresse.
et aussi, non, mais si on revient, la différence, c'est qu'en Afrique, tu as quand même, comme tu disais, tu as les joueurs 24 heures sur 24 à 12 ans dans une académie. Ici, ce n'est pas possible.
Il y a deux choses pour moi qui sont totalement différentes. Il y a ça, de 12 ans, et il y a aussi ce qui se passe avant. C'est-à-dire qu'avant, la grande chance des enfants africains d'aujourd'hui, c'est que avant 12 ans, ils jouent au football tout seuls, partout où ils ont la chance d'avoir un ballon et puis un petit bout de terrain.
Ça se voit tout de suite, ça frappe aux yeux le fait qu'ils jouent partout.
Ça saute aux yeux, oui, absolument. Oui. Ah oui, moi je passe des heures entières à m'arrêter. J'arrive, je vois des gamins en train de jouer, de préférence les gamins, les autres m'intéressent moins, c'est trop tard. Mais je m'arrête, je regarde quoi. Des fois pas longtemps, mais je verrai les mêmes en France, je m'arrêterai longtemps. Hein,
ah ouais.
Parce que ça saute aux yeux, quoi. Ils sont pieds nus, ils sont sur des terrains vagues, pleins d'immondices ou de choses et tout, très souvent, les trois quarts du temps. Il y a de la qualité énorme et ils jouent tout seuls. Donc, ils sont bien meilleurs juges que n'importe qui d'adulte, quoi, qui va être là, qui va dire, qui est moins bon. Moi, je dis toujours, alors je parle de l'élite, là, hein, je parle vraiment des joueurs d'élite, quoi, des talents. Ces joueurs-là sont meilleurs que nous, dans l'absolu. Donc, moi, leur apprendre quoi ? Pas grand-chose, mais leur donner la possibilité d'évoluer, de cadrer, de révéler. C'est le mot de Jean-Marc, on ne forme pas des talents, on les révèle. J'y crois beaucoup. Donc ça se sent, je veux dire, ça ne se met pas en équation, ça ne s'écrit pas. J'arrive pas à intégrer ça. C'est un grand défaut, ça, surtout ici, en France. En Afrique, ça ne me pose aucun problème. Non, t'as la transmission orale, elle n'est pas problématique en Afrique du tout. Hein.
Ici, si tu ne t'appuies pas sur quelque chose théorique.
Ici, si tu ne fais pas 50 pages de polycope, non, ce n'est plus des polycopes maintenant, je ne sais plus quoi.
Dossier.
Tu vois où je suis rendu, là. C'est vraiment grave. Hein. Si tu ne fais pas tous des tableaux et tout, mais... Oui, c'est intéressant, je dis pas que c'est pas bien de savoir aujourd'hui, de savoir que dans 4 mois et demi, le mercredi à 16h30, tu travailleras tous les centres du pied droit. C'est sûrement intéressant et utile. J'ai beaucoup de mal à me fixer là-dessus. Quoi. C'est un cadre, d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est le ressenti, c'est ce que je vois, que je ressens des joueurs et comment on peut faire pour qu'ensemble, ils progressent, ils jouent. Ici, moi, c'est l'habitude de tous les éducateurs et c'est normal. C'est la manière dont ils sont formés. N'importe quel jeu qui se passe dans le truc, l'éducateur, toi, tu joues là, toi, tu joues là, toi, tu joues là. Jamais je ne fais ça là-bas. Jamais. Toc, faites l'équipe. Faites l'équipe, mettez-vous en position. Après, on peut corriger, dire tiens. Parce que je me dis, s'ils font ça, eux, ils se connaissent, hein. Ils savent pourquoi ils le font. Ils savent pourquoi ils le font. S'il y a quelque chose que je trouve bizarre, je pose la question. Mais pourquoi vous vous êtes mis comme ça ? Ils me répondent. Alors des fois, ils n'ont pas toujours raison. Je dis, tu suggères. Tu ne penses pas que si tu mettais... Alors toi, Roger, si tu te mettais à la place d'Albert, ce ne serait pas plus mal compte tenu de... Ah oui, peut-être. Bah, essayez, on verra. Des fois, ils ont raison. Des fois, j'ai raison. Et on avance comme ça. On a le temps d'avancer aussi comme ça. On a le temps. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Mais comme je le trouve que c'est efficace, pas seulement dans le football, hein, c'est efficace dans l'éducation de tous les jours, de laisser les enfants, quand c'est possible, s'exprimer, appréhender les problèmes, réfléchir par eux-mêmes. Alors évidemment, c'est plus simple de dire « fais-moi ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Ok, d'accord. Après, qui juge, qui corrige, avec quelle capacité, c'est toutes des questions que je me pose à longueur de temps, donc, et que je cherche les réponses à longueur de lecture ou d'écoute à droite, à gauche, parce que, encore une fois, il n'y a pas la vérité. Il y a des nouvelles sources de renseignements qui existent maintenant, beaucoup de choses qui permettent d'étudier les sportifs. Mais je ne suis pas sûr que tout ça remplace le bon sens et l'œil.
Et justement, avec tout ça, que tu dis la qualité en Afrique des joueurs, des enfants de 10, 12 ans, ce n'est pas justement très frustrant d'avoir cette qualité à la base et à la fin de justement soit pas trouver d'opportunité pour tous les joueurs, soit arriver à stagner. Et c'est fou qu'il y en a si peu qui réussissent en Europe et qu'ils ne puissent pas s'exprimer en Afrique par les problèmes que tu as déjà énoncés dans les championnats locaux.
C'est très très frustrant, mais on est bien d'accord, c'est très frustrant et c'est un des mystères de ce monde. Hein. Pourquoi c'est fait ainsi ?
Pourquoi c'est le football européen qui domine ?
Bah pourquoi, oui, c'est la vie européenne qui domine. Alors là, je dirais plutôt qui dominait, parce que maintenant, je pense que là, je suis moins catégorique.
Mais le bien, foot, en tout cas.
Bien loin de là. Ouais. Hein, mais alors, la façon dont le foot européen domine aujourd'hui, alors là, je rejoins parfaitement mon ami Vincent Dufour pour dire que, pour moi, le foot d'aujourd'hui, là, tel qu'il est, l'intérêt, il baisse de jour en jour, hein, vraiment. Alors le jeu, je continue à adorer le jeu. Tout ce qui se passe autour, ça me semble tellement irréel, incompréhensible, c'est immoral, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis pas non plus complètement idiot. Je sais qu'il n'y a jamais eu rien de parfait. Mais là c'est, on va vers la fin d'un modèle de foot qui mettait d'abord le football à la portée de tout le monde. Des joueurs, des spectateurs, des ensembles, des supporters et tout et tout. Et qu'on est en train de casser tout ça. Alors qu'est-ce qui va ressurgir derrière ? Bon, on me dit chaque fois que quelque chose s'écroule, il y a un autre mur qui se remonte et qui des fois est meilleur que le précédent. Bon, peut-être, on verra ou je ne verrai pas, moi, mais enfin, on verra. Ça me chagrine quand même un petit peu, quoi, parce que je ne sens pas l'ambiance, je ne pense pas que c'est les gens accros au résumé d'une minute et au pari sportif qui vont aider au développement du football. Ça va peut-être aider au renforcement des milliardaires du football, mais à conserver ce sport populaire des joueurs jusqu'aux petits supporters et aux bénévoles et ainsi de suite, je ne suis pas du tout persuadé. Je suis même plutôt persuadé du contraire.
Donc, d'où l'énergie que tu mets dans des projets en Afrique ?
Absolument, oui, ça n'empêche pas de mettre de l'énergie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas optimiste qu'il faut s'arrêter. Hein. De toute façon, pour faire quoi d'autre ? Donc, il faut continuer, on avance comme ça. Mais il faut faire le maximum pour sortir, essayer de faire élever le maximum de gens, de faire en sorte que les autres essaient d'avoir un peu de, sinon de bonheur, mais au moins de plaisir dans la vie. Après, on se pose toujours la question, moi, je me la pose depuis que je réfléchis, est-ce qu'il faut mieux laisser les gens dans leur situation et pas leur faire connaître autre chose comme ça. Ils n'en vivent pas, donc ils ne sont pas malheureux. Alors, je ne suis pas le premier à poser la question, je ne suis pas le premier à ne pas y répondre. Il y a des gens, beaucoup de gens le font beaucoup mieux que moi, mais c'est un vrai sujet, c'est le sujet de la vie un peu aussi. Ça, c'est pas le sujet que du football. Hein.
Et justement, est-ce que, si on parle d'optimisme, pessimisme, un des problèmes du foot africain, c'est le manque de structure dans les championnats locaux. Est-ce que par contre ça, comment tu vois l'avenir, toi qui es là-bas depuis si longtemps ? Je ne sais pas si déjà tu as vu des choses évoluer dans certains pays.
Honnêtement, pas beaucoup, hein, très honnêtement. Depuis 23 ans que je suis sur l'Afrique, je ne vois pas... alors si, j'ai vu sortir de terre le stade de Mazembe, parce que je suis arrivé, on a été les premiers à l'utiliser, juste s'il venait de mettre la pelouse. Mais c'est le... c'est le fruit du travail d'une personne. Globalement, alors, encore une fois, je mets à part l'Afrique du Sud, qui est très structurée au niveau des infrastructures, tout ça. Il y a un très bon projet que je connais depuis peu au Bénin, avec, je pense, Jimmy Boko, pas aux commandes, mais dans le projet. J'ai vu une très bonne médiatisation du championnat ivoirien avec Philippe Doucet qui avait lancé avec Canal. Il y a une couverture régulière, mais bon, sur un terrain, c'est très difficile de faire des bonnes prises de vue parce qu'il n'y a pas de tribune, c'est toujours sur le même terrain. Les équipes sont moyennes, le jeu est moyen. Et je n'ai pas de modèle, je n'ai pas d'exemple. Alors, que ceux des pays que je connais le mieux, comme le Cameroun, où j'aide un peu Adam Poumi dans son académie depuis 10 ans, mais on n'a pas bougé d'un iota, quoi. Il y a quelques joueurs qui arrivent à partir en Tunisie ou au Maroc, et où régulièrement il se fait spolier parce qu'il ne reçoit jamais rien, donc il travaille dans le vide. J'ai pas d'exemple vraiment où il y a un pays où je puis dire tiens, ça y est, c'est parti. Bon, y a le Rwanda qui est pas loin de chez nous. Enfin, quand je dis pas loin de chez nous, c'est très 5-6 000 kilomètres, mais à l'échelle de l'Afrique, qui est en évolution, mais qui part de très loin. Le problème, c'est que la FIFA régulièrement verse l'argent après les Coupes du Monde pour faire des centres de formation, pour faire les stades, pour faire des trucs comme ça. Bon, je ne sais pas où ça passe, mais pas vraiment, je ne vois pas...
Ça n'arrive pas au niveau local après.
Bah, pas partout, hein, où ça ne me saute pas aux yeux. Alors, je ne suis pas dans tout, mais à travers tous les gens avec qui je discute sur le continent africain, hein, tous les intervenants, j'entends pas et je ne vois pas des pays où on dit là, c'est le pays où il faut aller, c'est le moment... Vraiment, j'ai pas d'exemple à dire, tiens, voilà, ça c'est le pays Eldorado, je dis le Rwanda, mais pour l'instant, c'est y aller pour commencer quelque chose. Et ouais, maintenant, les projets de 10 ans, moi, ça va commencer. C'est pas une raison, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence, et puis c'est pas un problème. Mais c'est un peu dommage d'avoir fait 10 ans, par exemple, ici en RDC, et de ne pas voir la sortie malgré la qualité des joueurs, et c'est compliqué. C'est compliqué, j'ai amené 3 ici à Clermont. Entre le Covid, l'adaptation, sortir des quartiers de Kinshasa où tu as passé toute ta vie, plus Lubumbashi, où tu n'es jamais sorti de là, et puis arriver comme ça et s'adapter à la vie européenne, à la nourriture européenne, à la culture européenne, même si on en a parlé, entre en parler et le voir et le vivre. C'est très très compliqué, donc il faut vraiment qu'il y ait une adaptation, qu'il y ait quelque chose de prévu pour l'accueil de tous ces joueurs. Pourquoi on a réussi à Beveren un peu?
Voilà, pourquoi cette génération ivoirienne a réussi à s'adapter justement en Europe et à faire ces carrières-là?
Parce qu'on était sur place, parce qu'on a quitté la Côte d'Ivoire. Bon, moi j'avais fait un an entre les deux au Stade Rennais avec Patrick Rampillon là, en tant que directeur adjoint. Directeur, moi lui était directeur, il m'avait engagé comme directeur adjoint. Ça m'a permis de jeter un œil à la préparation de Beveren et tout, et d'être là-bas sur place.
Non, parce que pour la petite histoire, parce que pas tout le monde connaît l'Académie en Côte d'Ivoire. À la fin, vous avez eu l'idée ou l'opportunité de prendre les commandes du foot dans un club belge et d'intégrer une grande partie de vos joueurs de l'Académie de Côte d'Ivoire.
Exact. On a commencé, Enfin, je passe sur l'histoire de l'achat, pas achat. Enfin bon, on a pris un club à Beveren
en Belgique. Parce que Belgique permettait de...
On pouvait avoir autant de joueurs étrangers qu'on voulait. On est venu avec 5 joueurs, dont Yaya Touré, Yapi Yapo, des bons joueurs. Ça a été très très compliqué dès le début parce que l'entraîneur a décidé dès le premier jour qu'aucun de ces joueurs-là ne pourrait jamais atteindre le niveau du championnat de première division belge.
Parce que vous avez pris vous êtes rentré dans ce club, mais vous n'aviez pas l'entraîneur.
L'entraîneur est resté en place. Voilà. Les dirigeants précédents qui avaient quand même coulé le club financièrement totalement, puisqu'à 2-3 jours près, si on n'était pas intervenu, il n'y avait plus de club, sont restés en place, qui était, je pense, stratégiquement une énorme erreur. Donc, l'entraîneur, ça a duré 3 mois, 4 mois, je crois.
Sans faire jouer vos joueurs ?
Si, 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 ah, quand même, un peu. Si, si, un peu. Mais bon, c'était très négatif. J'ai repris l'entraînement. Moi, j'étais pas venu pour ça du tout. J'ai repris l'entraînement pour finir la saison.
Mais qu'avec 5 joueurs de ton académie ?
Qu'avec 5 joueurs de l'académie. Bon, ça a été très, très, très compliqué. Et on a fini dernier et on a été sauvé parce qu'on avait remis la gestion à peu près à flot. Et donc, l'année d'après, là, on a fait revenir. Là, du coup, on a joué avec les joueurs de l'académie qu'on a fait venir.
La totalité de l'équipe,
c'est... Oui, pratiquement. Oui. On avait 13 joueurs.
Donc, c'est fou quand même comme histoire. Ça n'avait pas été fait avant ni après, non, d'avoir...
Non.
13 joueurs d'une académie en Côte d'Ivoire qui jouent en première division en Belgique.
Non, ça n'a pas été. Ça a été. Maintenant, on s'est repiqué un peu par Eupen, par des clubs comme ça, qui, avec. Je ne sais plus si c'est le Qatar ou un des pays du Golfe. Et on a fait la finale de la Coupe de Belgique. Ensuite, on a battu Anderlecht, qui était au top à ce moment-là. En match aller-retour et on a fait la finale.
C'était toi l'entraîneur ou non ?
Non, on avait engagé Herman Elleput, un entraîneur qui était au chômage, très humain, qui était avec Eddie De Baule. On a formé une équipe à la fois sportive et humaine, très 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 intéressante, avec des gens qui avaient pas qui aimaient le football, point final. Alors on a réglé tous les autres problèmes, parce qu'il y avait quand même pas mal. Un Africain, il ne vit pas comme le Belge moyen ou comme le Français moyen, surtout quand ils sont comme ça en groupe détaché dans un pays où ils ne comprennent pas la langue et tout ça. C'était un peu drôle. Quand j'allais boire ma bière du soir et que je voyais les joueurs passer pour aller au night shop, chercher à manger, il était minuit et tout ça, c'était assez... Des aventures, il y en a eu plein. On a quand même fini donc à bien, très bien faire le championnat.
Avec toi, c'était que des jeunes. Ils avaient tous 17
ans. Ah bah oui,
18 ans.
Avaient, 18 ans. Oui, entre 18 et 20, oui, maximum. Oui. 18-19 ans.
C'est incroyable comme histoire.
Oui, et on a même fait venir Copa Barry qui était parti à Rennes. Rennes nous l'a prêté, donc qui était le gardien de l'académie et ensuite le gardien de l'équipe nationale pendant de longues années. Et on était en finale de la Coupe de Belgique. On a perdu contre le FC Bruges. Il y avait quand même 17 télévisions du monde entier qui sont venues, non pas pour le football, mais pour voir ce phénomène, parce que Beveren était l'un des endroits emblématiques du Vlaams Blok, donc de l'extrême droite belge. Et le soir de la finale, devant la mairie, sur le perron, il y avait 20 000 personnes, c'est-à-dire quasi la totalité de Beveren, qui chantaient en flamand « Nous sommes tous noirs à Beveren ». Le phénomène social était extraordinaire, quoi. C'était vraiment... Et là aussi, tout le monde se... J'ai retrouvé à Lubumbashi des gens qui étaient en Belgique à ce moment-là, qui disaient « Ah, mais nous, on allait voir Beveren parce que c'était le meilleur football de Belgique. C'est Beveren qui jouait le meilleur football de Belgique. » On retrouvait Angers des années...
Ouais, ouais.
Des fins des années 60.
Et vous remplissiez les stades parce qu'ils voulaient venir voir jouer cette équipe.
Absolument, absolument. Absolument.
Et donc, tu dis, c'est une des raisons pour laquelle ces joueurs-là se sont bien adaptés en Europe, c'est qu'ils ont eu cette entrée
Exactement. Tous
ensemble dans un club belge et après, à partir de là, c'était parti. Quoi.
Alors, d'autres se sont adaptés autrement parce que Haruna Dindad, par exemple, qui est le premier qui était parti après le tournoi de Toulon, non, c'est Zokora le premier qui est parti à Genk, qui à l'époque, Genk, c'était très très fort, hein, il jouait la Champions League. Haruna Dindad, ensuite à Anderlecht, qui était un très grand joueur d'Anderlecht.
Et pourquoi la Belgique ?
Alors, pourquoi la Belgique ? C'est une très bonne question. Parce que c'est eux qui se sont présentés en disant, nous, on prend les joueurs, on vous paye.
Ouais. Quoi.
Les clubs français, dont Monaco, qui avait quand même normalement droit à un joueur.
Parce qu'ils avaient investi un peu au début.
Même 3 années d'investissement. Donc, c'est pas, même, si pour Monaco, même si pour Monaco, c'était pas énorme, c'était quand même, ils avaient droit au premier. Ils n'ont même pas fait valoir leur droit au premier. Ce qui fait que les dernières années de l'académie d'Abidjan, Jean-Marc, ont été financés par 11 amis de Jean-Marc qui ont chacun mis de l'argent dans l'affaire pour permettre d'aller au bout du projet, donc d'aller jusqu'à cette fameuse finale de la Coupe de la Coupe des Coupes contre l'Espérance de Tunis, là où l'Académie a remplacé les joueurs de l'équipe pro qui avaient tous été transférés.
Ça, c'est fou. Mais ça, c'était avant Beveren.
C'était juste avant Beveren.
Juste avant, ouais, cette même équipe,
Une année avant. Une année avant, puisque après l'année d'après, donc l'académie a pris la place de la SEC Mimosa complètement, a fini deuxième du championnat avec les joueurs de l'académie. Quoi. Après, c'est là qu'on est parti sur Beveren pour donner une visibilité aux joueurs. Et à partir de là, évidemment, ça, ça a facilité les choses. Les premiers joueurs sont partis. Arsène Wenger aussi a pris Colo Touré, qui avait fait le tour de France des clubs de deuxième division sans qu'aucun n'y trouve intérêt. Il est venu en Belgique, il était à Beveren avec nous, il s'entraînait avec nous, personne ne l'a pris. Arsène Wenger l'a pris et trois semaines après, il était titulaire et il a fait la carrière qu'on a connue à Arsenal et à Manchester City et évidemment en équipe nationale. Quoi.
Parce que Arsène Wenger, il est proche de Jean-Marc Guillou.
Bien
et,
sûr.
Et c'est, vous êtes tous oui. de la même équipe. Et il voyait, il a vu toutes ces 7 années de travail. Non, il était bien au courant.
Il connaissait bien le travail de Jean-Marc. Ils ont été ensemble tout le temps à partir de Cannes. Ils sont suivis tout le temps. Ils connaissaient les capacités de Jean-Marc. Il a vu, il a suivi l'académie. On a fait des tournois à Feyenoord. Tout ça, il venait, il se déplaçait. Il voyait bien jouer. Il connaissait très bien la science du football de Jean-Marc. Et donc, il a suivi ça de près. Et quand il a pu, il a quand même pris donc, Colo Touré, Gervinho, il est allé, et Boué.
Ouais, c'est vrai qu'il a pris 3 à l'académie.
Pas en même temps. Oui. Et Boué, après, que j'ai emmené là-bas, et de Beveren directement, c'est le seul qui a été. Oui. Et puis, Gervinho par la suite, donc, qui ont tous fait des carrières assez impressionnantes. Il n'y a plus que Gervinho qui joue encore.
Oui, j'ai vu, il vient de signer en Turquie.
Voilà.
Dans un nouveau club. Et c'est fou qu'on n'en parle pas, pas autant que le grand public, ou c'est pas si grave qu'il ne soit pas au courant, mais que voilà, cette académie, parce que qui a continué, comme on dit, même maintenant au Mali, plein de joueurs de l'académie GMG du Mali, qui là, il y en avait 2, Red Bull Salzbourg, voilà, qui a fait une finale de Coupe d'Europe contre Marseille.
Totalement.
Non, une demi-finale contre Marseille, oui. qui ont été formés, ils jouent en Angleterre, il y en a qui ont joué à Lille,
il y en a partout.
Ça a continué à alimenter plein de clubs européens.
Absolument.
Et on n'en parle pas beaucoup.
Ceux du Paradou, tel Atal et ainsi de suite.
Il y a Denayer, mais dans un autre
style. C'était quand même, d'ailleurs, un excellent article sur l'équipe la dernière fois où il racontait comment il jouait pieds nus, son gardien de but, il gagnait tout le temps.
En Belgique, c'est ça.
En Belgique, oui, au Lierse, oui, tout à fait.
Mais c'est fou, on n'en parle quand même pas beaucoup.
Non.
Par rapport à joueur formé, joueur professionnel, c'est une statistique bien au-dessus de n'importe quelle académie en Europe.
Totalement.
Là, si on prend juste la Côte d'Ivoire, cette première académie, 43 joueurs formés, 16 internationaux.
Ouais.
C'est énorme. On se retrouve. Et 43 joueurs formés à 12 ans, qui ont été recrutés.
Oui, et qui ont fait 12 ans, 18 ans. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment aucun. J'ai connu les premiers qui ont été pas gardés, un ou deux pour un problème de comportement, un pour un problème de blessure qui est ensuite devenu coach à l'Académie du Mali, de Bamako. Et les autres, très peu, n'ont pas joué. Qui est devenu musicien, mais c'est vraiment à la marche, quoi. Ceux qui ont moins grandi, qui ont un peu moins de capacité, mais tous les autres ont fait des carrières plus que correctes.
Et là, maintenant, et aussi bien avant l'époque en Côte d'Ivoire, mais maintenant aussi en RDC, comment tu fais quand vous recrutez vos joueurs à 12, 13 ans, 14 ans, si au bout de 1 ou 2 ans, justement, tu vois qu'ils ne vont pas atteindre le niveau que tu penses être le niveau, l'objectif, on va dire.
Alors, il y a un principe de base dans l'académie, c'est de toujours progresser. Dans quel que soit le domaine, c'est-à-dire à l'école, au foot, dans le comportement. Tu dois toujours progresser. À l'école, ça veut dire qu'on a des joueurs qui arrivent qui ne savent ni lire ni écrire. Donc évidemment, on ne les met pas en compétition avec ceux qui étaient déjà dans des bonnes écoles, enfin dans les meilleures écoles, à défaut des bonnes. On ne fait pas de compétition, mais il doit progresser. Donc en français, évidemment, on ne fait pas d'anglais pour ceux qui sont en alphabétisation, mais ils doivent apprendre, on doit progresser. Il y a des contrôles réguliers, ils doivent toujours avancer. Pareil pour la technique, donc l'histoire des degrés, où chaque vendredi matin, 9h, enfin 8h plutôt, parce que même 7h selon la chaleur, ils doivent présenter là où ils sont rendus dans la maîtrise du ballon, donc avec des jongles qui vont du plus simple au plus compliqué. Ils finissent en ce qu'on appelle dynamique dansée, c'est-à-dire d'un pied sur l'autre, sur la longueur du terrain en moins de 20 secondes. Je mets au défi beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de réussir ça, et de réussir ça le jour J, c'est-à-dire le jour de l'examen. C'est-à-dire que tu peux le réussir toute la semaine, Parce qu'on part du principe, tu peux tirer tous les pénaltys du monde dans la semaine et tous les réussir. Et pour réussir, c'est le jour du match, hein, au moment où tu dois le faire. Donc mentalement, c'est dans le même état d'esprit. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut, comme pour la compétition. Tu as l'émotion, la frustration quand tu ne réussis pas, et la satisfaction et l'explosion quand, depuis le temps que tu essayes de faire un enchaînement, c'est-à-dire une combinaison des 5-6 figures que tu dois faire pour passer au stade au-dessus. Tu as filé 5-6, après tu fais un enchaînement des 5-6, ça peut durer, je crois que c'est la plus longue, elle dure 22 minutes. Hein, quand tu es 22 minutes tout seul avec un ballon qui ne doit jamais tourner en allant, non pas comme le ballon il veut, mais comme toi tu le diriges entre l'épaule, la tête, l'autre épaule et ainsi de suite. Et que tu échoues à 3 jongles de la fin et qu'il faut recommencer tout la semaine d'après, faut de la volonté. Donc, on fait en sorte de ne pas se tromper. Le gros du travail, c'est dans la détection. On a un gros, gros avantage. C'est qu'on n'a pas de problème. Je m'en excuse pour ceux qui se sentiraient visés ici à Clermont, mais on n'a pas de problème de parents. Tout le monde veut qu'ils rentrent à l'académie. Et on ne les voit pas, on les convoque une fois quand on est sûr qu'ils vont rester, c'est-à-dire au bout de 6 mois. Parce qu'il y a 6 mois, en plus de trucs où on commence à 4000, 5000 et puis on rétrécit par l'entonnoir et on finit, on en amène une trentaine et puis on garde les 14 qu'on estime être les plus capables. Et ils savent que il y en a 5986 qui attendent de prendre la place. Donc, au bout de 6 mois, on fait un état des lieux. Et après, ils doivent progresser. Il n'y a que quand ils ne progressent pas, deux trimestres de suite. Donc, ça laisse quand même de la marge de récupération. S'ils ne progressent pas deux trimestres de suite, on ne les garde pas. Et on ne peut pas faire de cadeaux parce que même si l'enfant est... Alors, mais c'est à la marge, hein, vraiment. Et en plus, on essaie. On a une académie partenaire avec qui on travaille bien, partenaire qui travaille sérieusement, qui n'est pas très loin de chez nous, où on essaie de leur retrouver une opportunité. Parce que c'est quand même, de toute façon, ce sont des joueurs de très haut niveau. Moi.
C'est rare qu'au bout de 2 ans, tu te rendes compte qu'il n'a pas du tout le niveau.
Qu'il n'ait pas du tout le niveau, non. Ça jamais on trouve. C'est surtout qu'il ne progresse pas, quoi. Et qu'il ne progresse pas parce qu'il va manquer de puissance. Il va manquer, il y a quelque chose qui se développe pas. Alors, on attend un peu, on est patient. Et puis, il manque l'impulsion. Il manque le dixième et il manquera toujours le dixième. Alors, peut-être il va jouer en ligne à foot, c'est-à-dire en première division de la RDC. Hein, ça, on ne veut pas dire pour ça que c'est fini pour lui le football du tout. Hein, mais ça ne passera pas pour être international congolais. Quel est le niveau qu'on recherche. Donc, jouer dans Mazembe et jouer être à ce niveau-là. Et tous les joueurs qui sont passés par l'académie ont tous, au minimum, le niveau de la Nina Foot, c'est-à-dire de la première division congolaise.
Il y a beaucoup d'éducateurs, de formateurs, de coachs qui nous écoutent. Tu m'as parlé de, juste on va pas non plus rentrer dans ce détail-là, mais tu m'as parlé de deux exercices qui pour toi font tout, c'est le travail avec un mur et le taureau. Et avec ça, c'est bon.
Bah oui.
Le mur, donc c'est une personne qui joue face au mur.
Le mur, c'est le meilleur coach du monde, le mur. Tu vois, le mur, il te renvoie la balle comme tu lui as envoyé, avec la force que tu as, avec le truc, il te met pied droit, il te met lui. Ouais. Donc le jeu consiste à ce que ce soit pas lui qui te mette, mais toi.
Ouais, c'est toi qui décides.
C'est-à-dire, tout ce qu'il y a sur le terrain, c'est-à-dire que c'est toi qui maîtrises le ballon et pas le contraire. Et il n'y a pas besoin de se dire ah mais c'est pas l'heure de l'entraînement, j'ai personne, il y a personne pour jouer avec moi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Moi j'entends dire des fois ici ah mais comment faire l'entraînement, il y a machin et tout, il n'a que 10 joueurs. Et alors c'est un problème ça, il n'y a que 10 joueurs. Même si tu en as deux, tu fais l'entraînement avec ceux qu'il y a plutôt que de pleurer ou dire non on ne le fait pas parce qu'il n'y a que deux. Mais attends, au niveau où on est. Il y a de quoi largement progresser. Hein. Il y a tellement de choses à travailler. Et donc le mur pour moi, et j'étais très content de lire il y a peu Philippe Montagnier qui dit, mais comment se fait-il que le mur, c'est quelque chose d'indispensable.
Et maintenant, il y a des endroits, des académies où il n'y a pas de mur.
Ah j'en vois nulle part. Alors, ouais. C'est pas compliqué. Je parle d'académie, mais ici aussi à Clermont et partout, je pleure depuis que je suis ici pour dire, mais où est le mur? Il n'y a pas de mur. Pourquoi on ne met pas de mur? Bon. Et puis, la deuxième chose, le taureau. Alors, le taureau, j'ai passé... C'est pas parce que j'ai fait que ça doit être bien. C'est pas du tout ça. Mais on a passé des saisons entières à Angers à ne faire que du taureau. Et alors l'autre jour, j'ai vu une vidéo où les trois quarts, et je l'avais vu puisque j'ai eu l'occasion d'aller aux entraînements grâce à Yaya Touré, d'assister aux entraînements au Barça et tout, c'est quand même le fond de l'entraînement sous différentes formes. Évidemment, nous, France, taureau, on voit le truc se marrer avant l'entraînement, on est là, on se chambre un peu, on se moque de et tout et tout. Mais nous, quand on fait un taureau, ça ne plaisante pas. Hein. Et c'est très difficile à corriger pour le coach parce qu'il faut savoir qui a fait la faute. On perd la balle, donc c'est l'équipe qui perd la balle. Il y a deux ou trois joueurs au milieu. Si on perd la balle, c'est l'équipe qui perd la balle. Mais qui l'a perdu ? Celui qui arrive dans les pieds et puis il ne sait plus quoi en faire, c'est trop tard. Celui qui lui a donné juste là parce que du bout du pied, il lui a donné. Ou celui qui a mis au mauvais endroit parce que les trois taureaux étaient de ce côté-là et avec les angles, ce n'était pas là qu'il fallait le mettre. Et c'est celui-là qui doit aller au milieu. Donc c'est épuisant de surveiller 20 minutes de taureau pour dire non, c'est pas toi, c'est lui. Et effectivement, nous, on est arrivé à ce qu'un joueur touche 463 fois la balle sur 20 minutes de taureau. Un, on perd pas de temps. Deux, ça tourne, ça va très vite.
Ouais, deux touches de balle.
Deux touches maximum. Hein. Faites que des séances comme ça, et voir, ça va, vous allez progresser beaucoup. Alors, c'est pas, quand je dis on s'entraînait toute l'année, c'est un schéma quand même. Faut pas non plus exagérer. On s'entraînait à tirer des coups francs, on s'entraînait à des transversales, on s'entraînait à des choses comme ça. Mais le principal, parce que techniquement, ça t'oblige à être juste, jouer dans les intervalles.
Et la prise de décision.
Voilà. Donc, avoir vu avant que la balle arrive et quand ça va très vite. Alors, évidemment, aussi tout ça, moi, je joue à les taureaux, même ici, partout, tout. Les gens, il n'y a pas de marquage, il n'y a rien du tout. Alors, tu peux aller un mètre à droite, un mètre à gauche et tout. Donc, comme si au foot, tu pouvais jouer un mètre en dehors de la ligne et ainsi de suite. Et non, il faut être sérieux, les bien, avec des lignes, tu ne dépasses pas la ligne. Les mêmes règles qu'au football, le ballon, s'il est entièrement sorti, pas entièrement sorti, bon, ça fait l'objet de discussion. Mais justement, le coach, il est là pour dire, pas de discussion, vous discutez, allez, tous les deux au milieu et on partit et on continue, c'est comme ça. C'est extraordinaire d'efficacité.
Voilà, encore une fois, on revient sur la simplicité du football.
Sur la simplicité du football. Il n'y a pas besoin d'avoir de passer 2h30 à mettre 357 plots sur le truc.
Mais surtout que des fois, où tu peux être dans certains endroits, tu n'as pas 357 plots.
On n'a pas. Donc, si tu as la chance d'avoir des lignes, si tu as l'agence, nous, on met les maillots, on met les trucs et autour, et de façon à ce que la ligne soit le mieux définie possible. Et puis, allez, jouer. Mais l'avantage, en plus, nous, les gamins, ils sortent de l'école, alors ils sortent de la classe, ils font 30 mètres pour aller sur le terrain. À peine sorti, paf, le premier, comme les deux derniers qui arrivent, se mettent au milieu et tout.
Donc, ouais, ils commencent le taureau au milieu.
Tu perds aucune seconde. Nous, ici, entre la réception, entre les parents, les enfants, le machin, le truc, le tout, t'as déjà 30 minutes quasiment de perdu, de jeu de perdu.
À cet âge-là, ils ne se blessent pas, les petits.
Moi, ça fait 10 ans que je suis là-bas, 10 ans qu'on joue pieds nus pendant, et que certains jouent pieds nus, d'autres jouent avec des chaussures. Hein, puisque quand dans le même truc, quand ils ont les degrés, ils ont la chaussure immédiatement.
Mais ils continuent à jouer contre ceux qui n'ont pas encore de degré.
Absolument. Et on n'a eu aucun blessé. On a des blessés, je veux dire, mais aucun blessé grave. Je n'ai pas eu une jambe cassée. On n'a pas eu
Et pas d'élongation parce qu'il ne s'est pas bien chauffé, parce qu'il a fait un taureau.
Alors on est tranquille avec le temps quand même. Hein. Il fait rarement très froid. Hein. Mais non, parce qu'il s'échauffe en faisant le taureau. Bon, puis ils sont tellement habitués. Puis ça fait pas trois jours qu'ils n'ont pas joué au foot. Hein. Quand ils arrivent, ça fait une heure. À part le matin, et encore le matin, s'ils se lèvent de bonne heure, ils foncent sur le terrain et puis ils jouent. Donc,
ils ont des heures de football en plus que des petits européens. Ça serait intéressant de savoir à 12 ans le nombre d'heures en plus qu'ils ont en bagage.
On l'a calculé quand les gars sont venus de Clermont, quand ils sont venus là-bas, on a fait le calcul, mais c'est assez vite fait. Au minimum, les jours, parce que bon, ça dépend de la pluie, surtout quand tu joues pieds nus. Sur le synthétique, puisqu'on a la chance d'avoir un synthétique. Je demande un terrain couvert depuis je ne sais combien de temps, mais pour éviter le soleil et qu'on puisse jouer tout le temps, et de la lumière, parce qu'on n'a pas non plus, la lumière pour, quand il fait moins chaud, justement, pouvoir être sur le terrain. En temps normal, ils ont une heure et demie à peu près, une heure et un quart, ça fait 2h30, et encore après une heure le soir. Ça dépend de l'intensité. Ça dépend de l'intensité. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire une heure, un quart, parce que je préfère beaucoup d'intensité, parce que quand c'est commencé, nous, aller boire, c'est quand il y a de l'eau. Aller boire, c'est tac, en courant et revenir et on repart tout de suite. On ne parle pas tout le reste de la journée pour discuter, se raconter sa vie et ainsi de suite. Hein, et tout en courant. Tu vas boire, tu vas en courant, tu reviens en courant, on repart. C'est tout le temps, parce que c'est une habitude à prendre et que tu prends petit et que tu gardes tout le temps, que tu gardes après. Tout dans l'intensité, tout le temps. Alors, je préfère faire 45 minutes ou une heure que de faire une heure et demie avec 30 minutes d'explication. Tu tournes quatre fois autour du poteau là-bas, tu vas là-bas, tu reviens, tu donnes à Joseph qui va ensuite regarder, mais il faut bien qu'il regarde pour mettre là-bas en mettant le corps comme ça, en mettant le truc. Vas-y, joue. Et puis, si tu ne mets pas bien, regarde, pourquoi tu as raté ta passe ? C'est de suivre tout ce et profiter de l'erreur pour la corriger. Au lieu de dire avant, si tu te mets pas comme ça, tu vas rater. Ça, c'est pas valable. Si le mec, il se met pas comme ça, il rate pas. Alors, tu lui dis quoi ? Ah, tu lui dis, mais il fallait pas mettre ton corps. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? L'essentiel, pour moi, c'est qu'il réussisse à mettre le ballon là où je veux. Mais qu'il le mette de la façon dont il veut. Moi, quand mon premier éducateur que j'avais emmené là-bas, tout frais et moulu du côté du Mans, là, gentil au demeurant, mais j'entendais dire un contrôle ça se fait pas comme ça, je dis attends arrête, pourquoi un contrôle se fait pas comme ça, est-ce que le contrôle est réussi, oui, alors il est réussi, s'il le rate, ah tiens, et s'il le rate une deuxième fois, s'il le rate une troisième fois, mais qui a décidé qu'un contrôle se faisait de cette manière, oui je suis d'accord, il y a des plats du pied sécurité, tous les poncifs, tous les trucs, je suis totalement d'accord avec ça, mais le mec doué qui va me faire un contrôle de l'oreille et tout et puis que ça marche, pourquoi je vais lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On a dit à Picasso comment il fallait peindre, ou à Monet, il faut laisser l'inventivité, il faut laisser l'instinct, tout ce qui fait la richesse. Après, évidemment, avec l'important, c'est l'efficacité, c'est le résultat, c'est la réussite. Ça, je suis d'accord. Et le pourcentage de réussite, c'est pas une fois de temps en temps. Si tu le fais régulièrement, qu'est-ce que tu veux dire ? Moi, je suis un fan. Je ne pense pas qu'on puisse jouer au football avec un seul pied, aujourd'hui, à haut niveau, à très haut niveau. Donc, maintenant, si le mec, avec un seul pied, il est capable de te faire, comme j'en vois beaucoup avec les extérieurs, avec tout, il manque quand même quelque chose, mais c'est vrai qu'à partir de là, il compense. Alors, faut qu'il compense à un niveau très, très élevé. Mais s'il est capable de faire ça, ça veut dire que si plus jeune, il avait aussi travaillé beaucoup son second pied, ça posait pas de problème. Et plus on le travaille jeune, moins ça pose des problèmes. Plus on apprend à lire jeune, moins on a de problèmes. Et à 45 ans, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'à 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le cerveau, c'est comme ça. Alors pourquoi on le fait pas systématiquement ? Ça me semble pas extraordinaire pédagogiquement de comprendre ça.
La simplicité. Qu'est-ce que tu conseilles à un entraîneur qu'hésite avant de partir, qui est ici en France et qui a une opportunité de partir en Afrique.
Qu'est-ce que je lui conseille ? D'arrêter d'hésiter. Hésitation, t'es mort. Hein. T'hésites au départ du 100 mètres, les mecs, ils sont devant toi. Donc, vas-y.
Toi, t'as pas hésité ?
Non. Ça m'a pas empêché de faire des conneries, de pas hésiter. Hein. Loin de là, en paquet même, d'ailleurs. Hein. Là, c'est pas une heure et demie d'émission qu'il faut pour toutes les aligner. Hein. Mais bon an, mal an, j'essaie de ne pas rendre les gens malheureux autour de moi. Ça peut être une chose qui me bloquerait. Hein? Donc ma famille, évidemment. Mais sorti de là, tu vas hésiter pourquoi ? Va. Alors si évidemment on te dit tu viens préparateur physique numéro 1 au PSG ou tu vas troisième entraîneur de l'équipe Poussin de Tananarive, oui, non, ça, d'accord. Et toujours temps de se retourner, de revenir et tout, ça, c'est plus facile que de dire « Ah mince, j'ai raté le départ ».
Mais ils peuvent avoir peur de se dire « On va me coller une étiquette, je ne vais pas réussir à retrouver ici si j'ai envie de rentrer en France, ça ne va pas être bien vu ».
Oui, c'est possible, mais c'est possible dans l'autre sens aussi, puis c'est possible que tu n'aies plus d'étiquette du tout, parce qu'on ne prend pas ici, on ne prend pas là-bas non plus, et tu peux avoir toutes les étiquettes du monde, mais en plus en dehors de l'Afrique et de l'Europe. Attends, il n'y a pas que l'Afrique et l'Europe. Hein. Je suis allé en Asie. Ce sera une autre fois. Hein, mais, là, tout est possible. Mais va quelque part où tu vas te faire plaisir, où tu vas découvrir quelque chose, quel que soit le contexte. Et puis, ça ne va pas, tu reviens. Puis, tu cherches ailleurs et tu repars ailleurs et ainsi de suite.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ?
Qu'on ne soit pas en retard à ton train.
Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt, Régis. Merci pour ton temps et pour nous avoir fait voyager.
C'est moi qui te remercie de te déplacer, Hugo. C'est toujours intéressant d'échanger avec des gens de qualité.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Au-delà de l'entraîneur et du formateur, j'ai eu la chance d'échanger avec une belle personne qui adore partager, échanger et faire des rencontres. Régis fait partie de ceux qui donnent sans compter, ce qu'il fait depuis plus de 20 ans avec les jeunes footballeurs en Afrique. Merci Régis pour ce moment de partage et cette journée passée ensemble. Voilà, vous venez d'écouter le 22e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt !